Était-il nécessaire, Monseigneur, qu'un évêque de France parle de Monseigneur Brincard? Si c'est le cas, vous auriez dû demander à Monseigneur de Germigny, parce que c'est lui qui est le plus vieux, un vieil ami, le frère le plus proche d'Henri. Donc, aujourd'hui, évêque émérite de Blois, ils ont tous les deux été de la même génération et à l'école des Chartes, proches par leur formation, leur culture. Comme je les ai très bien connus tous les deux, j'ai invité Maurice de Germigny à venir et il est venu jusqu'à Saint-Perne pour me parler de son frère très cher. Voilà. Donc, je lui dis merci et je dis aussi merci à Monseigneur Baumgarten, je le répéterai quand il viendra, de m'avoir. Ah, il est là. Il sait, voilà, sans doute dans une année commune à Lyon, il a vu l'estime profonde que j'ai toujours gardé pour Henri. Je me permets de l'appeler comme ça. Hein. Et je suis content voilà, d'être ici dans ce sanctuaire du Puy-en-Velay. Juste avant de remonter à ces souvenirs-là, j'étais il y a 2-3 jours pour l'ordination d'un petit frère de Bethléem en Chartreuse. Et l'une des petites sœurs en Chartreuse m'a parlé de lui. Et je prends le langage tel qu'il est, hein. Très petite sœur de Bethléem. J'avais été scotché par sa façon de parler de la miséricorde. Henri, c'est ce qui m'a décidé à lui demander de venir présider ma profession au monastère de Curières. En fait, c'est une analyse profonde parce que c'est vrai que si on regarde toute la vie et la pensée, l'attitude d'Henri, tout pour lui tenait dans la charité. Voilà. Elle me disait, par exemple, un jour, il a fait une visite dans l'un de nos monastères, il a tout regardé, tout ça, etc. « Bon, j'ai vu tout ce que vous avez construit, mais j'ai une seule question à vous poser. Est-ce que vous vous aimez les unes les autres ?» De fait, c'est quand même une assez bonne question à poser à des religieuses. Voilà. Alors, lui, il était surtout attentif à la charité, et puis il partait de l'amitié, d'ailleurs, pour parler de la charité. Et puis, il avertissait son public, vous voyez. Ne vous faites pas d'illusions, hein. Des actes de charité véritable, eh ben, on n'en pose pas beaucoup. C'est bien, genre de phrase un peu agressive, parce que, du coup, tu fais ton examen de conscience, il dit, ben, c'est peut-être vrai pour moi aussi, voilà. Donc, je vais partir d'une année sainte, année 2005. On avait célébré la solennité de Pâques assez tôt, c'était le 27 mars. Et le samedi suivant, le 2 avril, c'était le 7e centenaire de l'église de Saint-Nizier à Lyon. Donc, c'est le matin du dimanche in albis, c'est-à-dire le dimanche qui suit Pâques. La tradition veut que l'évêque reçoive dans sa cathédrale tous les nouveaux baptisés, adultes et jeunes, de Pâques. C'est une joie lumineuse, pascale, de toute la grande famille diocésaine. Et puis, c'était des jours vraiment très intenses quoi, pour nous. Mais moi, je devais partir donc en 2005, prendre la route du Puy parce que c'était la solennité de l'Annonciation. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que chez les Ponneaux, vous le savez bien, Henri m'avait invité pour cette fête de l'Annonciation. Et quand le 25 mars tombe le Vendredi Saint, alors on reporte la fête de l'Annonciation au dimanche qui suit Pâques, au dimanche in albis. Et donc ça tombait ce 4 avril, le 3 avril plutôt. Donc moi, le soir du samedi, je pars, j'étais à l'archevêché, je partageais le repas avec un séminariste, je pense pas que c'était votre évêque, je me rappelle plus, et tout d'un coup, on a entendu les cloches de la basilique sonner, voilà, la basilique de Fourvière, et aussi les cloches de la primatiale Saint-Jean, et elles se mettent à sonner le glas à 21h. Alors, il n'y avait pas d'hésitation, évidemment, c'était l'annonce de la mort du pape Jean-Paul II, et tout le monde savait qu'elle approchait, donc j'avais même demandé au maire de Lyon, j'avais dit, ben, jusqu'à quelle heure on peut sonner les cloches pour l'annonce de la mort de Jean-Paul II. Il me dit, non, sans hésitation, au moins jusqu'à minuit. Donc des foules sont arrivées à la primatiale Saint-Jean, à la basilique de Fourvière, la police avait été prévoyante, elle avait déjà tout prévu dans le quartier. Et immédiatement, je suis allé sur le parvis de la basilique de Fourvière pour accueillir tout ce peuple fidèle. Donc il y avait des quantités de foules vraiment nombreuses, belles, ferventes. C'était une famille, quoi. On voyait vraiment que l'Église était une famille, attristée par la mort d'un pape auquel on était très attaché. Hein. Il a été pape près de 27 ans. On est au milieu de tout ce peuple, plebs sancta, le peuple saint, uni dans une belle prière d'action de grâce. Les familles qui arrivaient. Et là, il dit, on a vérifié que tous les enfants dormaient, ou bien au contraire, on a rhabillé tous les enfants, parce que c'était un samedi soir, il n'y avait pas l'école le lendemain. Et on s'est dit, on monte à Fourvière. Et de fait, quasiment tout Lyon, enfin énormément de monde, sont montés à la basilique de Fourvière. Et un soir, on pouvait se coucher tard. C'est une atmosphère très simple. C'est le grand moment où on voit que l'église est vraiment une famille, il y avait quelque chose de joli. On était là, voilà. L'église est vraiment notre propre famille. Il y avait la tristesse de sa mort, mais en fait, elle était anticipée. On avait vu qu'il avait énormément baissé. Et au fond, il y avait surtout un très grand remerciement pour ce pontificat exceptionnel qui avait duré plus d'un quart de siècle. Les voitures arrivaient de partout, la police était un peu dépassée, mais toujours bienveillante, très gentille. Ils étaient bienveillants pour tout le monde, compréhensifs. Enfin, c'est une atmosphère assez jolie. Et le lendemain, donc, il a fallu faire face aux multiples obligations de ce genre d'événement, conférences de presse, condoléances des autorités locales, les messages qui arrivaient de tous les coins du diocèse de France et aussi de nos diocèses amis et jumeaux dans le monde, etc. On a vu, on le savait d'ailleurs, que Jean-Paul II était très bien aimé. Et après, je devais aussi accueillir, comme on fait toujours au dimanche inalbis, c'est-à-dire le dimanche qui suit Pâques, ceux qui venaient d'être baptisés, on les appelle les néophytes, et les grands jeunes et les adultes, voilà, avec leurs vêtements blancs. Et c'est une très grande joie dans la famille. Dès que ça a été possible, donc j'ai pris la route du Puy, voilà, dans l'après-midi, en début d'après-midi. Et tout le monde devait être en œuvre, donc, dès le début de la matinée du lundi 4 avril, comme je l'ai expliqué, parce que quand le 25 mars tombe un vendredi saint, la fête est reportée au dimanche qui suit Pâques, plutôt, voilà. Et donc, c'était la fête du 25 mars, c'était ce lundi-là. Henri qui m'avait expliqué ça, je devrais dire le cher Henri, puisque lui m'appelait toujours le cher Philippe, mon cher Philippe. C'était une atmosphère très belle ici chez vous, magnifique, simple, joyeuse, pleine de foi. Un grand moment pour la famille diocésaine. Elle était rassemblée autour de lui, son pasteur, dès le matin. Et je trouve que, enfin, pour vous, les Ponos, ça doit certainement être une belle journée de jubilé pour vous. Vous la vivez fidèlement chaque année. Voilà. Moi, je voudrais citer son nom parce que j'étais très attaché à lui, mais sans doute beaucoup aussi. Citer le nom du cher Dominique, le fidèle Dominique, qui était inséparable d'Henri. Et qui est parti maintenant et qui était constamment aux côtés de son saint évêque. Donc la démarche du jubilé, ce 4 avril, commençait à 9h à la cathédrale. Elle trouvait son sommet dans la messe de 11h. Et la suite de la journée était fraternelle, comme on le vit ici, à l'évêché du Puy, un peu partout, dans cette magnifique cathédrale, qui était comme une grande maison familiale, voilà. Et le soir, je devais retourner à Lyon pour célébrer donc cette messe du départ de Jean-Paul II avec toutes les autorités lyonnaises. Voilà. Alors, mes contacts avec Henri étaient anciens et profonds et fraternels déjà bien avant. Quand j'étais évêque à Moulins, lui, il était déjà évêque au Puy. On formait une toute petite province de 4 diocèses. Il y avait Saint-Flour, il y avait le Puy et Clermont, voilà. Et à ce moment-là, nous étions sous la houlette de Mgr Hippolyte Simon, c'était notre archevêque métropolitain. Et on avait plaisir à se retrouver régulièrement chez l'un, chez l'autre, pour une petite journée, pour une petite session de travail aussi. Et c'est ce qui était beau, justement, c'était cela. Parce que nous étions quatre bons hommes, si je puis dire, très, très différents. Et on arrivait à travailler ensemble comme des frères. Si je peux me permettre de raconter ce détail, quand Henri est mort, donc notre archevêque métropolitain était Mgr Simon, c'est lui qui présidait la messe, et Hippolyte s'approche de moi, il me dit « Philippe, faire le sermon du départ d'Henri, non, tu vois, c'est pas pour moi, donc tu vas le faire. » Et c'était assez joli et simple, je trouve, comme attitude, et très franc et fraternel, voilà. Alors, si je veux parler d'Henri Brincard comme je le connais, je suis obligé évidemment de remonter à bien avant, parce que nos relations n'ont pas commencé en 1998, quand j'étais tout frais revenu de Madagascar et que j'ai été nommé évêque de Moulins. Nous ne sommes pas tout à fait de la même génération, puisqu'il avait plus de 10 ans de plus que moi, pas de camarades d'études, pas d'amis d'enfance ni de jeunesse, mais nous avons fréquenté des maisons de formation qui nous tenaient à cœur à tous les deux, des lieux spirituels, des communautés ecclésiales. Enfin, je vais quand même faire un saut en, en amont d'une bonne vingtaine d'années. Je commence par dire que moi, quand j'étais petit, j'avais envie de devenir prêtre, mais je savais que je serais prêtre, je ne sais pas pourquoi. Je savais que c'était ça mon avenir, quoi, c'est tout. J'en avais le grand désir, mais il n'y avait pas d'hésitation sur ce sujet. Pourtant, on était dans des périodes compliquées, puisque j'ai passé mon bac en 1968, et comme vous savez, dans les périodes qui ont suivi, il y a eu un petit peu de chahut, quoi, dans la vie sociale et dans la vie de l'Église. C'était pas la période rêvée pour choisir le chemin de la vie consacrée. On entendait dire des choses assez extravagantes sur les séminaires et les communautés religieuses. On savait pas trop si c'était la vérité ou si c'était une affabulation, mais voilà. Et on voyait surtout ce qui était le plus douloureux quand on a 17, 18, 19 ans, c'est de voir des quantités de prêtres qui quittaient le ministère. Et à chaque fois, c'était comme une nouvelle assez rude, enfin difficile à accueillir, surtout quand c'était un prêtre qu'on avait connu, auquel on s'était confessé, et où on avait participé à son ministère, etc. Moi, j'avais 18 ans, donc, à l'époque. Et en fait, j'en ai pas été particulièrement troublé, ni dans ma propre vocation, parce que j'appartenais à une famille solide, où la foi, la prière, la pratique religieuse n'avaient jamais été mises en cause par aucun des parents et des enfants. Le curé de notre paroisse était un homme de fond, artisan de paix, on le voyait souvent à la maison. Donc voilà, c'était une situation qui n'était pas toujours rassurante, ni facile à comprendre, mais qu'on a vécu et traversé. Quand j'ai eu 16-17 ans, j'ai fait des exercices spirituels de Saint-Ignace, chez les coopérateurs paroissiaux du Christ 3, près de Paris. Et après, j'ai demandé à rentrer chez eux pour me consacrer au Seigneur une fois que j'avais passé mon bac. 2,68. Certains vont penser que c'est pour ça que je dis oui. Et on m'a envoyé en Espagne, j'ai fait un noviciat, j'y suis resté pendant 2 ans, j'ai appris l'espagnol avec grande joie, découvert l'Église d'Espagne, mais en fait, voilà, j'ai vu que c'était pas mon chemin, quoi. Donc, c'est un prêtre qui m'a aidé à voir ça pendant mon service militaire après, et donc, j'ai dit qu'il fallait que j'ai compris qu'il fallait que je change. Donc, je suis revenu en France, et j'ai commencé des études de philosophie. Donc je commence alors des études de philosophie à l'IPC, à la Sorbonne, à Paris, tout ça me passionne. Je rencontre beaucoup de jeunes, garçons et filles, il y a eu beaucoup de mariages d'ailleurs dans ces groupes de jeunes, comme souvent dans les groupes chrétiens, et on travaillait en profondeur. Des belles amitiés, où il y avait la foi et la culture qui grandissaient ensemble, et quelques vocations aussi qui se dessinaient. À ce moment-là, comme les établissements, y compris catholiques, et l'Institut catholique était en assez grande difficulté, on était tout un groupe à monter à la basilique de Montmartre, faire partie du groupe de résurrection. On a vécu de très belles rencontres et un vrai travail théologique exigeant. Le recteur, c'était Monseigneur Maxime Charles, et il faisait attention à tous ceux qui pensaient au sacerdoce. Donc on se réunissait chez lui une fois par mois, et puis nous parlions ensemble. C'est à ce moment-là que j'ai fait la connaissance de Maurice de Germigny, et c'est Maurice, que j'ai interrogé, comme je vous disais, qui est aujourd'hui évêque émérite de Blois, et qui m'a mis en contact avec son grand et vieil ami Henri Brincard. Je suis allé voir dans le splendide appartement familial du 7e arrondissement de Paris, et qui m'a dit ce qu'il pensait de la situation actuelle avec simplicité et clarté, et cette espèce de confiance de fond. L'Église, c'est l'Église. Donc il y a des tumultes, il y a des difficultés, etc. Mais elle a les paroles de la vie éternelle. Donc si tu es décidé, si le Seigneur t'appelle, ben, tu n'as pas de raison d'avoir peur. Donc tu peux continuer. Et ça m'a vraiment été pour moi comme, si je puis dire, une aide fraternelle, quoi. Une belle aide fraternelle d'un frère aîné. Alors voilà qu'à l'automne 73, donc, contre l'avis de mes proches et dans une situation qui était assez difficile et ambiguë, grosso modo, pour dire des choses de manière un peu rapide, évidemment, les grands mouvements contestataires de 1968 ne sont pas arrivés tout de suite dans l'Église, mais là, on était en plein dedans. Hein. Donc c'était un petit peu dangereux, et en fait pas. Parce que le Seigneur veille, et parce que si on était décidé à lui être fidèle, on pouvait l'être. Voilà. On m'avait beaucoup prévenu hein, contre cette ambiance assez post-68arde de la communauté, de l'Institut catholique, des cours de philosophie et de théologie. Mais j'ai été mis en contact tout de suite avec vraiment des personnes de grande valeur, Maurice de Germigny, Claude Rochin, et Maurice donc était très près de Henri, et c'est comme ça que je suis allé donc à la rencontre d'Henri. Ses aînés, Maurice de Germigny, Claude Rochin, lui, Henri, ils avaient 10, 15 ans plus que moi, et ils m'ont reçu avec une belle attention fraternelle. Ils avaient eu, plusieurs d'entre eux, une vie professionnelle avant. Ils m'ont pas menti, mais ils m'ont dit que mais l'esprit de mai 68 était dans les cours de la cato, dans l'ambiance de la maison, mais que, bon, on connaît l'Église, on sait ce que le Seigneur demande, on sait ce qu'est la liturgie, et donc si on veut rester fidèle, on peut. On peut avancer, voilà. Donc, pour moi, c'était vraiment un vrai réconfort fraternel. Henri plus loin, et puis plus proche, justement, Maurice de Germigny et Claude Rochin. Ce qui était sympathique aussi, c'est qu'ils étaient très différents entre eux. Donc je me disais, c'est pas seulement un modèle, c'est des gens qui savent ce qu'est être fidèle à l'Église et qui veulent l'être. Et il y a une contestation post-68 heures de d'accord, mais grosso modo, tu pourras tenir, tu pourras y faire ta place, tu pourras t'y former en théologie et avancer, voilà. Et c'est ainsi que je me suis lancé. Je suis monté beaucoup à la basilique de Montmartre, où j'ai travaillé à la revue Résurrection, avant d'en devenir le rédacteur en chef, quand j'étais séminariste, ce qui n'était pas bien vu au séminaire à l'époque. Et c'est amusant pour moi d'y penser maintenant, en montrant comment les aléas de l'histoire ne doivent pas être pris d'une manière trop idéologique, parce que celui qui était le supérieur de mon séminaire à l'époque, au séminaire de l'Institut catholique, qui est devenu ensuite évêque de Nantes et archevêque de Toulouse, c'est Mgr Émile Marcus, et je mange en face de lui tous les jours maintenant. Et c'est vraiment assez touchant, parce que je suis admiratif, il a 94 ans, de sa fidélité. Aujourd'hui, de vrais serviteurs, des petites sœurs des pauvres, de tous les gens qui passent le voir, après toutes ces périodes, au fond, assez tumultueuses, quoi, que nous avons traversées. Voilà. Maurice de Germigny était toujours resté très proche d'Henri Brincard, comme vous le savez, mais Henri avait fait un choix différent. Donc nous étions au séminaire de l'Institut catholique, qu'on appelle le séminaire des Carmes, c'est un très beau nom, vous savez, c'est là qu'il y a eu les massacres de 1792, et donc... C'était un lieu qui nous touchait beaucoup. Pour Henri, quand il était venu, il a été un an au séminaire des Carmes. J'ai interrogé sur Mgr Marcus, parce qu'un an je vis avec lui, et il me dit non, il n'a pas pu rester plus d'un an. Parce que quand il entendait tout l'esprit 68 art, si vous voulez, dans les cours de théologie de l'Institut catholique et tout, il est parti. Et c'est comme ça qu'il a fait sa formation à l'extérieur. Alors, lui, Henri, ne m'en a jamais parlé. Et je pense que tous ceux qui ici l'ont connu aussi, il était assez très, très, très discret sur tous ces grands tumultes. Et au fond, c'est beau. Mais là, comme ça, j'ai appris à quel point il avait été effrayé de ce qu'il avait pu voir et entendre dans ce cadre à l'époque. Donc, pour lui, ce n'était pas possible. Et il a décidé de poursuivre son cursus à l'Université de Fribourg. Et là, au moins, il aurait de la bonne philosophie et de la bonne théologie et un enseignement sûr dans ce monde dominicain où il était allé, parce que le grand maître était le père Marie-Dominique Philippe, grande figure du taoïsme durant toutes ces années. Et il en est devenu, un peu, on peut le dire, le premier disciple, son disciple numéro un. Et avec tout ce qui est révélé ces derniers temps sur Père Marie-Dominique Philippe et son entourage, je suis content qu'Henri soit mort et qu'il n'ait pas eu affaire à tout ça, parce qu'il aurait été dans une grande consternation. Au fond, le mystère du bien, du mal et de la sainteté et du péché reste pour nous quelque chose de très mystérieux, parce que personne ne peut comprendre des choses comme ça, mais voilà, ce sont des faits. On appelle ça, chez nous les chrétiens, le mystère d'iniquité, et c'est le Christ qui est venu nous en livrer la porte de sortie, si vous voulez. Alors, les plus anciens parmi vous se souviennent, disons, de ces troubles vécus dans ce qu'on appelle les années post-68 art, comme on dit. Mais pour moi, c'était pas un gros problème, quoi. Je savais que j'avais le désir d'être prêtre. Oh, je sais pas, on m'en parlait. Je savais que je serais prêtre. Je sais pas pourquoi. Et jamais eu d'hésitation sur le sujet. Donc j'avais ces grands frères qui étaient là et avec lesquels je pouvais parler, Maurice de Germigny, Henri Brincard, Claude Rochin, beaucoup d'autres, etc. Une fois que j'ai terminé mon service militaire, En 71, j'ai continué par des études à l'IPC, Faculté libre de philosophie comparée, ce qui me permettait aussi de suivre les cours de l'université de Paris 4 à la Sorbonne et d'y obtenir au fil des ans tous les diplômes de licence, de maîtrise. Alors, le tout jeune professeur, assistant du professeur Alquier, était Jean-Luc Marion, aujourd'hui donc un philosophe de grande renommée en France. C'est lui qui a piloté mon travail sur Leibniz. Et moi, j'étais content, non pas toujours de ce que j'entendais, certes, mais au fond, à travers les tumultes de l'histoire et dans l'époque dans laquelle tu es, où jamais rien n'est parfait à 100%, ni aucun cadre, ni aucune congrégation religieuse, ni aucune maison, etc., parce qu'on avance avec la grâce et malgré le péché, et la grâce toujours peut être victorieuse, quoi. Je croisais quand même des grandes figures, quand même Lévinas, Pierre Bouton, plusieurs des grands professeurs. Et encore une fois, donc Jean-Luc Marion, qui maintenant est une très haute tête, était le jeune assistant du professeur Alquier. Mais où est-ce que j'allais faire mon séminaire? C'était ça qui n'était pas très simple. Ces gens-là que j'aimais beaucoup, Rémi Brague aussi, ou Jean-Luc Marion, je ne pouvais pas leur demander des conseils. Où est-ce que je pouvais aller me former, quoi? Ce que j'entendais dire des séminaires parisiens de l'époque était assez dissuasif. L'alternative du séminaire des Cônes en était à ses tout débuts. Mais en fait, moi, comme ça, je me disais, je sentais les ruptures futures qui, aujourd'hui, sont vraiment dramatiques, enfin, catastrophiques même. Et ben voilà, heureusement, j'ai avancé avec naïveté peut-être, avec confiance. Grande opposition de ma famille qui me disait « mais tu te jettes dans la gueule du loup, tu vas te faire dévorer comme tous les autres, etc. » Je dis beaucoup de « le bon Dieu, c'est quand même le bon Dieu, donc il va s'occuper de nous. » Et c'est à ce moment-là que j'ai le plus bénéficié, disons, de contact de ces deux frères aînés que je lis depuis, dont je fais le lien, quoi, depuis le début de cet exposé, qui sont Maurice de Germigny et Henri Brincard. Deux grands amis, comme je vous le disais, et fort différents, et qui est toujours très pacifique, et qui prenait le temps de bien écouter les objections, les difficultés, et puis de parler avec un frère, comme des adultes, et en disant bah, « t'as une tête, quoi. Tu as un cœur, tu as ta foi, tu as la grâce de Dieu, alors maintenant c'est à toi de savoir ce que tu pourrais ». Eux-mêmes, ils m'ont dit cela aussi. M'ont fait comprendre que je pouvais avancer avec confiance et avoir une formation sérieuse, même dans une période tumultueuse. D'abord, ils m'ont donné l'exemple, parce que je les voyais dans une grande sagesse, tous les deux, tout à fait lucides, et sachant très bien critiquer ce qui devait l'être. Nous savions que nous étions dans une période chahutée, mais au fond, le commandement de Jésus, « n'ayez pas peur », valait typiquement pour nous à ce moment-là. Donc, un peu, j'avais deux autres points d'appui, parce que j'avais cherché, je voulais pas. Donc, le premier était d'aller chez le père de Lubac. Donc, le père Henri de Lubac avait quitté Lyon et était venu s'installer chez les jésuites dans Paris. Et il me recevait tous les mois. Il me donnait un livre, et puis vérifiait si je l'avais lu, et puis si je l'avais compris. Oh là là là. Et puis. À la basilique de Montmartre, j'ai trouvé aussi une très belle équipe, surtout pilotée par des dominicains, là, pour le coup. Marie-Joseph Leguillou, Jean-Miguel Garrigue et Christophe Schönborn, d'ailleurs, qui était tout jeune prêtre à ce moment-là. Et de tout ce monde-là, évidemment, j'ai beaucoup reçu. Celui qui m'a le plus impressionné, c'était le père de Lubac. On entrait dans un vœu de pauvreté. Il vivait vraiment dans la pauvreté. Hein. Et sa chambre était impressionnante, d'abord par sa simplicité, parce qu'il n'y avait rien. Et puis ensuite, à cause de ses notes. Donc il avait tout lu, cet homme-là. Et il avait tout annoté à la plume. Et il y avait jusqu'à 1,50 m du sol des paquets de papiers de notes où il savait exactement, au troisième rang, là, vous avez trouvé ça, allez chercher, etc. Puis je le prenais. Et au-dessus, les livres, les siens, d'abord, traduits dans toutes les langues. Et aussi tous les autres qui montaient jusqu'au plafond. J'ai pris l'habitude d'aller le voir chaque mois. Franchement, je ne l'ai pas regretté. Voilà. Alors, Henri, lui, à ce moment-là, il n'était pas tellement dans mon horizon, si je puis dire, mais je suis devenu vraiment un proche de Maurice de Germigny. Et Maurice veillait, au fond, sur les jeunes frères au séminaire des Carmes. Je ne sais pas s'il m'a pris sous son aile ou tout ça, mais enfin, lui et son ami Claude Rochin... Ils écoutaient, ils suivaient, ils accueillaient pour comprendre les réactions, pour conforter les frères plus jeunes que eux. Et finalement, dans une période tumultueuse, c'est-à-dire post 68 tard, la mentalité 68 est arrivée dans l'Institut catholique dans les années 72, 13 et 14, qui était celle-là, et ils m'ont montré comment il fallait continuer à avancer doucement, quoi. Voilà. Et ça m'a pas particulièrement rapproché d'Henri, mais je savais qu'il faisait partie de cet horizon. Et en fait, après, on s'est rencontrés. Donc j'ai été un prêtre du diocèse de Créteil, ordonné prêtre à Alfortville, une ville devenue un peu tristement célèbre ces temps derniers. Et puis après, vicaire à Notre-Dame de Vincennes, où j'ai vécu un ministère fantastique, extraordinairement heureux, avec des quantités de vocations qui ont surgi. Et à cause de la gloire locale de Vincennes, qui est Saint-Louis, on avait fait un groupe qui s'appelle l'équipe Saint-Louis, je ne sais pas s'il dure toujours, mais où il y a eu des choses splendides. Et dans ce groupe de l'équipe Saint-Louis à Vincennes, il y avait une dame de la paroisse de Vincennes, qui s'appelait Jeanne Lecomte, et une femme assez exceptionnelle, et qui était mère de 3 enfants, deux jeunes filles aînées et un garçon plus jeune. Et avec les amis de ces filles, de la classe terminale, de la première, des préparations, des débuts à la faculté, elle organisait un week-end, une fois par trimestre, avec le père Brincard. Et c'est comme ça que j'ai retrouvé la trace d'Henri Brincard. Et moi, donc Henri Brincard faisait des bons week-ends, du vendredi après-midi jusqu'au dimanche soir, hein, c'était du solide, et où il y avait une formation spirituelle brincardienne, quoi. C'était du vrai, quoi. Et moi, jeune vicaire de paroisse, je voyais ces gars-là arriver, et ces filles aussi. Et je les voyais qui se confessaient fidèlement, qui étaient très désireux de faire oraison, et le père Brincard nous a expliqué que, et le père Brincard ceci et cela. En majorité, il venait de quelques-uns des établissements religieux du coin, mais c'était la joie, on peut dire la grande joie, quoi, de cette paroisse Notre-Dame de Vincennes. Donc le père Brincard, il savait qui j'étais. Et il avait dit à Madame Lecomte, Barbarin, ils peuvent aller le voir. Ah bon, d'accord, donc j'ai compris que j'avais sa confiance, je ne sais pas comment, sans doute par des relations. Et j'entendais parler de lui aussi par Maurice de Germigny. Voilà. Donc, dans ce groupe, Henri a fait un travail vraiment merveilleux. D'abord, énormément de vocations en sont issues. Je pourrais citer les noms de garçons, de filles, de carmélites, de prêtres, etc., dans différents endroits. Je terminerai d'ailleurs par la citation de l'un de ces prêtres devenus évêques, profondément marqué par lui. Il encourageait les jeunes, il les conduisait, il leur apprenait la prière, la vie des sacrements, enfin les points essentiels, si vous voulez, de la vie chrétienne, qui sont fondamentalement... Ben, moi, je compare ça toujours à la prière à la respiration, la confession à prendre sa douche, et l'Eucharistie à la nourriture. Bon, ben, ça, tu fais ça tous les jours, quoi. Et donc, c'était les 3 éléments essentiels. Et je voyais comment eux, très simplement, dans la diversité de leurs études ou de leurs engagements, ils avaient été formés comme ça, quoi. Votre vie chrétienne tiendra à ce trio de votre engagement précis, concret et fidèle dans la prière, la confession et l'Eucharistie, bien entendu. Vous imaginez la joie que ça donne à un jeune prêtre, quoi, quand on voit se développer un groupe comme ça. C'était ma première paroisse, hein. Des jeunes qui étaient fidèles, discrets, vraiment bien formés, très divers, hein. C'était pas uniquement les petites familles cathos du coin, quoi. Et ils étaient eux-mêmes apôtres dans leur lycée et leur faculté. Et la référence au père Brincard, évidemment, ça m'a donné quand même envie de découvrir ce monsieur, ce qui est arrivé, bien sûr. Et à partir de là, ben, on a pu prendre des quantités d'initiatives, notamment la fondation de ce groupe, l'équipe Saint-Louis, je ne sais pas s'il dure toujours, mais enfin, qui a produit beaucoup de beaux fruits. Ils avaient le week-end du père Brincard, qui commençait le vendredi après-midi. Et on revenait le dimanche soir tard, c'était donc quelque chose de vraiment profond. À partir de là, on a fait des grands rassemblements de jeunes, et j'ai mesuré, voilà, l'impact, la profondeur du travail spirituel missionnaire accompli par Henri en eux. On peut dire que tous les éléments de la vie chrétienne étaient clairs et bien mis en place. Et tout ceci était bien revérifié par le week-end trimestriel. Pendant ce temps-là, ben, on reprenait tout. Et après, je suis rentré en contact très peu avec lui. Donc tout ceci venait d'une dame qui s'appelle Jeanne Lecomte, et qui est une de mes pensionnaires admirables d'ailleurs. Et elle faisait l'intermédiaire entre Henri et moi, et Henri m'a encouragé à monter cette équipe Saint-Louis, à organiser des pèlerinages, et on a fait des grands pèlerinages à Częstochowa en 80, pour le 4e centenaire de la mort de Thérèse d'Avila à Avila en 82, puis Saint-François en Italie, etc., etc. Enfin, beaucoup de très belles choses. Ils y ont attiré beaucoup des amis, des cousins, des camarades d'études. Et souvent, quand on est attiré comme ça par quelqu'un de sa famille ou un copain, c'est parce qu'on a une question spirituelle au fond de soi-même, quoi. Donc de là, on est des quantités de vocation. Par exemple, actuellement, donc, je suis dans le diocèse de Rennes, et on me demande de donner quelques cours au séminaire de Rennes. Et le vicaire général local, le propre cousin germain de Jacques Habert, donc Paul, il est là. Je l'ai connu quand il avait 19 ans, c'est son cousin qui l'avait attiré. Et on peut dire que tout ça est un fruit, au fond, du ministère d'Henri. Après, j'ai disparu pendant 4 ans quand je suis allé dans la Grande Île, où j'ai reçu quelques visites, dont justement celle des Habert. Et puis, après, dès que je suis revenu de la Grande Île, j'ai été nommé évêque immédiatement. Or, ça m'a complètement effrayé parce que je venais de passer 4 ans à Madagascar où c'était pas tout à fait l'ambiance. Et là, tu rentres, tu vas devenir évêque de Moulins, donc tu n'as pas le temps de te réhabituer à l'Église de France et tout et tout. Et là, ils m'ont beaucoup aidé. Et Maurice de Germigny et Henri Brincard, ils sont venus, quoi. Maurice de Germigny était dans la même province que moi. Henri a été très attentif et ils m'ont vraiment donné des conseils fraternels sur, si vous voulez, cette nouvelle mission sur ces territoires que je ne connaissais pas. Et moi, j'ai été vraiment très reconnaissant, si vous voulez, de leur sagesse, de leur simplicité fraternelle, et puis de me montrer qu'est-ce que l'Église de France était devenue pendant ces années d'absence pour m'y réadapter. Et ça m'a un petit peu réconforté, voilà. Et évidemment, là-dessus, j'étais plus proche d'Henri, parce qu'Henri était évêque au Puy, et moi, j'étais évêque à Moulins. Donc on se voyait dans toutes les rencontres de notre province avec Hippolyte Simon, qui était au fond très franc et très direct, et qui disait « Bon, moi, je ne suis pas tout à fait de la même famille, mais vous êtes mes frères. » Et avec un assez beau respect dans ce domaine-là. C'est aussi que je le racontais, d'ailleurs, au moment du décès d'Henri, l'archevêque métropolitain était Monseigneur Simon, et Hippolyte me dit « Tu sais, Philippe, je préside parce que je suis l'archevêque, mais je ne saurais pas faire le sermon pour Henri. S'il te plaît, fais-le à ma place. » Alors, je l'ai fait volontiers. Et bah, par la tristesse du décès du cardinal Billet, j'étais à Moulins depuis 4 ans à peine. J'ai été nommé archevêque de Lyon. Et j'ai servi ce diocèse pendant une vingtaine d'années. C'est un diocèse formidable, si riche en histoire. Quand tu trouves le 134e successeur de Saint-Irénée, et puis que tu vois des jeunes séminaristes qui montent et qui sont aujourd'hui avec d'ici. Enfin bref, le diocèse de Lyon, c'est une merveilleuse famille, quoi, si on peut dire. Je succédais à des figures qui dépassaient complètement. Donc quand j'entendais ces noms du cardinal Gerlier, de Courtrai, et surtout celui qui était juste avant, le cardinal Louis-Marie Billet, qui était impressionnant. C'était vraiment un saint, quoi. Je l'avais beaucoup admiré, donc c'était aussi une grande joie. Henri m'a suivi. À ce moment-là, il connaissait bien Lyon. Plusieurs fois, il venait à l'archevêché de Lyon, il montait dans les bâtiments de l'évêché d'époque qui était Fourvière, et puis il me commentait la ville de Lyon. Et alors là, il y avait la banque ceci et la banque cela, mais il devait y avoir quelques accointances entre sa famille et des grandes banques, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, il connaissait très très bien Lyon, mais lui... il allait surtout à Fourvière, quoi. Donc il y avait son cher chauffeur Dominique, et les moments les plus douloureux ont été quand il a été malade, et il allait se faire soigner à la clinique protestante de Caluire, et quand il sortait, il me disait « je m'arrête obligatoirement chez toi, donc tu me donnes à manger, je dors, etc. » Et il allait prier et prier et prier à Fourvière, et c'est lui qui m'a commenté beaucoup de choses sur Lyon, non pas appris à la connaître, mais approfondi, voilà. J'ai reçu à ces occasions-là, dans sa visite, beaucoup de conseils fraternels, parce qu'il connaissait, voilà, et la vie de l'Église, et cette basilique, et cette ville, et toute son histoire, et pour moi jusqu'au quartier de la Part-Dieu. Et j'étais heureux, quoi, qu'il se sente comme un frère dans cette maison. Alors évidemment, c'est arrivé de plus ou plus souvent quand il est devenu malade, parce qu'il se faisait soigner à la clinique protestante de Caluire, et il revenait souvent. Là, moi, je veux rendre un hommage à Dominique, parce que j'ai trouvé que c'était un chauffeur frère d'une telle humilité et d'une telle présence à son cher évêque, que vraiment, en étant ici, disons, je pense beaucoup à lui, vous êtes certainement très nombreux à l'avoir connu. Et puis après, ben, il a vu que l'heure approchait pour lui, quoi, voilà. Alors, en fait, moi, j'ai senti, j'espère ne pas me tromper, que tout le monde était en paix autour de lui, parce que lui-même était en paix. Et il savait que quand elle est revenue, ben, il faut qu'elle soit venue, donc elle est... il faut s'y préparer, et il avançait de manière très, très simple. Juste après sa mort, j'ai fait un voyage à Rome, et je crois qu'il a dû être enterré un jeudi, je ne me rappelle plus. En tout cas, le lundi, j'étais chez le pape, quoi. Et j'étais venu une ou deux fois avec Henri voir le pape François, et le pape m'a dit, le lundi soir, il m'a dit « Philippe, tu diras quelques paroles en mon nom au funérailles de Mgr Brincard. » Et tu béniras tout le monde, et au moment où tu béniras, tu diras, je ne sais pas si je l'ai fait, que tu donnes cette bénédiction quand tu donneras cette bénédiction du Seigneur, dis-leur qu'elle vient aussi de moi, de tout cœur. Donc on sentait sa proximité, si vous voulez, avec Henri dans ces moments-là. Pour terminer, je voulais juste, j'ai dit à Jacques Habert, donc l'actuel évêque de Bayeux-Lisieux, et qui participait à ces week-ends de jeunes à Vincennes, et tu peux pas m'écrire une petite page. Et il me dit, bah oui, bien sûr, sa reconnaissance pour Henri. Alors je termine par cela. Lorsque je parle, donc lui, aujourd'hui, évêque dans le Calvados, là. Et il était un jeune de cette paroisse de Vincennes où j'ai été un vicaire si heureux. Hein. Lorsque je parle aux jeunes qui me posent des questions sur ma vocation, j'évoque toujours un week-end de retraite que nous avons vécu en janvier 79. Avec des jeunes de ma classe terminale. C'était au cours de ce week-end que j'ai, d'une façon très forte, éprouvé l'appel du Seigneur à devenir prêtre. Le prédicateur de cette retraite était le père Henri Brincard. Et c'était ma première rencontre avec lui, et je peux dire que je ne l'ai jamais oublié. Et ensuite, j'ai participé à plusieurs autres retraites qu'il prêchait. J'étais donc un lycéen, et c'est un homme qui m'a impressionné dans son humanité et son sacerdoce. Ce qui me frappait chez lui, c'était sa ferveur. Il parlait de l'amour de Dieu avec force et douceur. On le sentait habité d'un feu intérieur, et quand on le voyait célébrer la messe, on voyait qu'il célébrait avec une grande intensité intérieure. Au cours de ses retraites, il avait la possibilité de rencontrer le prédicateur, alors on rencontrait l'homme. Et il était très attentif, très bon, très proche, voulant savoir vraiment à qui il avait affaire. Mais aussi, on rencontrait un vrai témoin et acteur de la miséricorde de Dieu dans le sacrement du pardon. J'aimais bien ses prédications. Elles étaient construites, charpentées. Et il montrait que la foi chrétienne n'est pas seulement un sentiment. Elle a un contenu, une logique, et qu'il faut travailler pour l'approfondir. Ce qui m'a aussi énormément marqué, je suis heureux de le dire ici, évidemment, c'est son grand attachement à la Vierge Marie. Et il m'avait beaucoup encouragé à la prier fidèlement et tous les jours. Lorsque j'étais nommé évêque, j'ai eu la joie de le retrouver comme un frère dans l'épiscopat. Et il m'a confié l'accompagnement de l'Association des œuvres mariales. Il m'a aussi invité à participer à la fête de l'Assomption au sanctuaire du Puy. Et j'ai aussi pu participer à la célébration de ces obsèques. Ce qui m'a touché, c'est la ferveur de l'Assemblée. Elle disait, elle aussi, beaucoup de choses sur l'homme qu'il avait été. Il y avait beaucoup de reconnaissance dans les paroles échangées les uns avec les autres et les prêtres et les laïcs à la fin de cette messe. Et en pensant à lui, je rends vraiment grâce au Seigneur d'avoir croisé sa route. Voilà, je termine après ce témoignage, par une petite histoire. Que j'ai appris tout récemment, parce que là je reviens de faire une ordination en chartreuse d'un père de Bethléem, et mais c'est une histoire qui est peut-être connue de vous. Donc c'est un frère ou une sœur, je ne sais plus, de Bethléem qui m'a raconté ça. Donc Henri a été longtemps, comme vous savez, professeur à la Grande Chartreuse. D'ailleurs, il disait, j'allais enseigner une classe de un élève. Donc, il allait dans la chambre du Chartreux. Et puis, c'est comme si j'avais une série de classes avec chacune un élève unique. Naturellement, quand il était à la Chartreuse, il faisait l'effort de participer à l'office des matines, en pleine nuit. Un jour, il s'est trompé. Et il est arrivé à une heure plus tôt que d'habitude, à la tribune plutôt que l'heure fixe, quoi. Et il a vu un moine qui est entré tout seul dans l'église et qui est allé se mettre à genoux devant l'autel. Il s'est mis à parler, et comme il n'y avait personne, il s'est mis à parler fort. Du coup, j'ai entendu sa prière. « Oh mon Dieu, que vous êtes bon! Je veux vous le dire au nom du monde entier !» Et alors, Henri dit, à ce moment-là, j'ai ressenti cet événement presque comme un péché de ma part, parce que j'avais l'impression d'être comme un enfant dans un placard qui écoute une conversation qui n'est pas pour lui. Amen !